J'ai le destin lâche et les jambes engourdies. Malgré le soleil de midi, je tourne en ronde dans mon lit.
Le magazine littéraire Épilogue vous est présenté en collaboration avec la Librairie du Quartier. La Librairie du Quartier, au 1120 Avenue Cartier, au cœur de Québec.
Bonjour à tous, bienvenue à Épilogue, émission, ma foi, émission du 10 avril, émission printanière d'Épilogue. C'est un grand plaisir de vous retrouver, Valérie Gaudreau, microphone, accompagnée de Brian Saint-Louis. Bonjour Brian.
Bonjour Valérie.
Et de notre invité en studio avec qui on va commencer l'émission, en fait en début d'émission, Alain Beaulieu est avec nous.
Allô, allô.
Bonjour toujours.
Ils ont déjà commencé l'émission avant qu'elle commence.
Ben là, écoutez, on est parti, on a fait le tour, on a réglé le sort de la vie littéraire au Québec avant d'entrer en onde. Aujourd'hui, on va parler avec Alain Beaulieu de son très bon nouveau roman, Le Refuge. On s'était parlé la dernière fois, Alain Beaulieu, au téléphone, mais là, on a le plaisir d'être ensemble en studio. Ce sera un grand plaisir. On va parler aussi de la pandémie qui a plutôt aidé les introvertis qui, parfois, couper les rapports sociaux, ça les a peut-être un peu arrangés. J'aime bien la formule qu'Alain Beaulieu a dit en hors des ondes. Olivier Niquette, l'introverti le plus exposé.
Oui,
c'est ça. Il joue donc animateur, chroniqueur, notamment à la soirée. Il est encore jeune, Olivier Niquette. Le roi du silence, les rois du silence. Ce qu'on peut apprendre des introvertis pour être un peu moins débile et peut-être sauver le monde.
Rien de moins.
Vaste programme. Brian Saint-Louis va nous en parler. C'est aux éditions de ta mère.
Mais oui, Olivier Niquette qui le dit lui-même. Il est devenu un porte-silence au lieu de porte-parole. Les introvertis. Un essai qui vient toujours de paraître. Il était d'ailleurs au Salon du Livre pour en parler.
Oui.
Est-ce qu'ils vont sauver le monde? Oui et non. Est-ce que la pandémie a aimé? Oui. A sauvé les introvertis? Oui et non. C'est plein de nuances, ce petit livre-là, où on en dit beaucoup sans dire vraiment trop non plus. Donc, je vous en parlerai plus tard au courant d'émission.
Mais formidable. Et je rebondis sur ta dernière phrase, Brian, pour aller à la pièce musicale. On va en dire beaucoup sans tout dire. C'est ce qu'on va faire pour parler du Refuge, un livre dont on ne voudra pas vous dévoiler tous les secrets, mais où le caractère psychologique, il a force des personnages. On va en parler avec Alain Beaulieu tout de suite après cette pièce.
Mais ça se passe dans le bois, c'est ça?
Oui, c'est tout ce qu'on peut dire.
Alors, on commence ça dans le bois avec Edith Butler.
Ah oui.
Feu qui éclaire la nuit dans le bois.
Le cœur décide où est sa maison et les étoiles sont claires à soir. Elles ont été claires un bon moment. Les étoiles dans le ciel du secteur où les personnages du roman Le Refuge d'Alain Beaulieu se sont installés, un petit chalet loin de tout, vivent une retraite. Des personnages, Antoine, professeur de littérature retraité, sa conjointe Marie, éducatrice, des gens éduqués, des gens bons fondamentalement, oui. Qui choisissent d'aller là. Mais le ciel, pour reprendre les mots d'Edith Butler, on peut dire que le ciel s'obscurcit. Voilà. C'était un lien donc intéressant avec cette quiétude qui est brisée par un événement perturbateur. Et là, Alain Beaulieu, on va mettre les choses, les cartes de l'entrevue sur table. On ne veut pas dévoiler la nature du geste, mais on peut dire qu'un événement vient tout basculer.
C'est ça. En fait, c'est ça. Eux, ils sont installés dans un shack, un petit chalet rudimentaire, on peut dire ça. Là, pas d'eau, pas d'électricité. Bon, ils s'arrangent. Finalement, c'est à leur chalet, puis ils vont décider d'aller s'installer là. Ils vont dire, on essaye ça, de s'installer là plus, à plus long terme. Fait qu'ils vendent leur maison à Québec, puis ils s'installent là pour 6 mois, mais en fait, ils vont rester là une couple d'années. Et c'est ça, on peut raconter l'événement, oui. Là, c'est-à-dire que dans une nuit, ils vont être victimes d'un braquage à domicile. C'est-à-dire que deux gars cagoulés arrivent chez eux, puis ils leur demandent leur argent parce qu'ils soupçonnent qu'ils ont des économies de cachées quelque part dans ce chac-là. Et finalement, c'est cet événement-là qui va venir changer leur vie parce que Antoine en particulier va réagir d'une manière un peu intempestive, on peut dire ça.
Exact.
On va se rendre jusque-là, mettons.
Oui, exactement. Bon. Mais tout ça...
Et le geste que lui va poser, ben, ça va changer leur vie complètement. Ouais.
Ça va changer jusqu'à... Et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que même en ne disant pas la nature du geste, on a quelque chose d'universel. Dans cette idée de quiétude brisée, de moments dans la vie qui peut être transformé sur d'autres éléments dans nos relations avec les autres et qui fait qu'on a... ce que j'ai trouvé extrêmement fort dans cette psychologie de personnage, c'est aussi de dire « je ne me reconnais pas ce geste-là ». Il y a un avant et un après, ouais. Et ça remet en question presque l'identité de ce qu'on croyait
être... Oui. Tu sais, dans la vie, j'imagine, ça nous arrive à tous, là, qu'à un moment donné, il se passe des choses qui viennent changer le cours de nos vies.
Ouais.
Parfois, c'est pas de notre faute. Fait que, ben, on se dit, ben, c'est la fatalité, là, tu sais.
Bon, exact.
Mais quand c'est de notre faute, c'est-à-dire que quand on a pris part à ce qui a fait que, c'est ça, là, on a posé un geste. C'est vrai que c'est une question de niveau, tu sais, lui, bon, c'est quelque chose quand même d'assez toxon, là.
c'est grave.
Bon, mais c'est vrai qu'on peut le ramener à des choses de la vie un peu plus simples. C'est-à-dire des fois où on s'est emporté, tu sais, devant quelqu'un, puis après ça, on le regrette, tu sais, où on a posé des gestes, où on a dit des choses qui ont blessé quelqu'un, puis ça a mis à mal une amitié, ou tu sais, ce genre de trucs-là, qui fait en sorte que... En fait, c'est un roman. On en a déjà parlé, je te tutoie, excuse-moi.
Bien, certainement, c'est un chouchou d'épilogue à l'involution.
Vous savez, Valérie, c'est ça, j'ai perdu mon idée en plus.
Mais parfois, c'est ça, c'est des petits gestes.
Oui, c'est des petits gestes, puis.
On veut le rattraper un peu.
Ce que je voulais dire, c'est que vous savez, Valérie, que quand j'écris mes romans, j'ai pas de plan. Hein? Moi, je commence une histoire avec. Comme là, c'est vraiment le refuge, le lieu là, qui était au départ de ça, à Antoine. Puis tout de suite, Marie, il faut le dire, c'est un roman
ça,
qui est raconté.
C'était vraiment important, il faut
fois.
En parler. Oui, je voulais parler de la forme.
Pour chaque chapitre, Antoine commence par parler, puis Marie, après, ajoute sa version des choses, parfois ajoute aussi des informations, tout ça. Bon. Et quand j'ai commencé à écrire ça, je ne savais pas du tout vers quoi je m'en allais. Et je me rends compte après l'avoir écrit, je me suis rendu compte que c'était un roman sur la culpabilité, sur l'image qu'on a de soi-même, puis comment on réussit à vivre quand l'image qu'on a de soi-même correspond pas, en tout cas, on a fait des choses qui correspondent plus à l'image qu'on aimerait avoir de soi-même.
Exactement.
Hein? C'est-à-dire qu'on s'aime pas. T'sais, on a fait quelque chose, puis dans le fond, on le regrette. Puis il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Là,
de remettre la pâte à dents dans le tube.
Il faut apprendre à vivre avec une image de soi qui n'est pas idéale. C'est
exactement.
Normal, on n'est pas parfait, on a tous fait des erreurs, tout ça, fait que c'est normal. Fait que c'est un peu ça. Mais là, c'est vrai que c'est amené à un autre niveau parce que à cause de la gravité du geste, ça va venir changer leur vie.
Et il y a un caractère secret, puis l'élément de culpabilité, c'est là que la psychologie des personnages est très poussée, puis on se reconnaît à, comme on disait, peu importe le degré de mais cette notion aussi de j'allais dire d'une forme d'hypervigilance parce que bon leurs gestes sont entourés d'un secret aussi et c'est comment la capacité à avoir des moments d'apaisement à travers ça,
très difficile.
Ouais, c'est exact.
Ça. Mais oui, c'est ça aussi, la peur que des gens découvrent ce qu'eux ont fait de pas très bien, mais aussi t'sais, par rapport à leurs enfants, par exemple. Mm-hmm. C'est l'image de soi, c'est de soi à soi, mais c'est aussi de soi par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on sait, à partir du moment où on a posé un geste là, dont on n'est pas fier, ben ça vient teinter aussi notre rapport aux autres parce qu'on sait qu'on est toujours un peu à côté de la vérité de ce qu'on peut être par rapport aux autres parce qu'on leur cache quelque chose. On leur cache.
Et ces personnages-là, ils sont très profonds, ils sont attachants aussi dans leur détresse, dans leur cette narration. Tu l'as évoqué, donc ils se répondent. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était prévu comme ça, mais il y a vraiment un élément de complicité. Moi, j'aime beaucoup une des premières phrases de Marie qui dit « Bon, je me permets de commenter le manuscrit de mon mari. » Donc déjà, on a cet engagement avec le lecteur d'une conscience d'être dans ce mode-là. Ouais. C'était quelque chose qui s'est vraiment imposé.
Ça s'est imposé.
On peut avoir l'impression que ça a arrêté quasiment presque l'idée avant même l'intrigue.
Non, c'est comme, bon, au départ, Marie prenait pas la parole, là. C'est Antoine qui racontait l'histoire, puis tout de suite Marie m'a dit, le personnage te parle, puis dit non, c'est pas lui qui va parler à ma place, je veux raconter moi ma version des choses, ça. Puis même, je dirais qu'elle est plus active, hein, elle prend le lead pas mal de ce qui va se passer par la suite, là, tout ça, bon. Mais c'est vrai pour tous les couples, je pense, qui fonctionnent aussi. C'est-à-dire que tu as une grande complicité entre les deux personnes, mais chacun garde sa personnalité propre. Tu sais, il n'y en a pas un qui est avalé par l'autre ou qui est obligé de se soumettre à l'autre. Mm-hmm. Puis je pense que ça, les deux personnages sont comme ça. C'est-à-dire qu'Antoine a sa personnalité, Marie a la sienne. On sent qu'ils sont très complices. Et là, cette complicité-là va être mise à mal, évidemment, parce que là, ils vont avoir à faire face à des grands défis, disons ça comme ça.
Exact.
Mais je tenais à ce que, effectivement, ça soit pas que la voix de Marie soit pas celle d'Antoine et inversement. Ça veut dire que c'est vraiment deux personnes avec leur personnalité propre, avec leur manière de voir les choses qui sont un peu différentes, mais qui s'aiment, ça veut dire qu'ils vivent en couple, mais qui n'ont pas abandonné ce qu'ils sont fondamentalement.
Oui, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est à quel point, bon, ces événements-là, mais aussi le fait qu'ils sont à la retraite, vivent un peu plus reculés, ils nous parlent d'eux aussi, hein, puis leur métier, on voit comment ça a forgé aussi leur vision du monde, la littérature est très présente. Ouais. Ça a été mentionné dans des entrevues précédentes, un premier personnage prof de littérature universitaire, donc ce que Alain Beaulieu est aussi en grande partie dans la vie.
Ça, je m'étais promis, hein. De pas faire ça.
Oui, l'auteur dans le livre.
Écrire un livre, justement, où le personnage est un prof d'université, puis là, on sent qu'il règle ses comptes avec le milieu.
Il y en a eu quelques-uns comme ça.
Ça existait déjà dans l'histoire.
Puis là, les collègues se disent, ils parlent-tu de moi au département?
C'est ça, exactement. C'est un roman à clé où on essaie de trouver des bons, des méchants.
Même l'Université Laval en a eu quelques-uns dans le passé.
On pourra parler de ça un moment donné. Mais triste histoire, d'ailleurs.
Oui.
Mais vois-tu, là, ça me permet, dans le fond, moi je suis pas à la retraite encore, vois-tu, les personnages ils ont à peu près une dizaine d'années, d'un peu plus que moi, là, bon, je me projette un petit peu dans le temps, mais ça me permet effectivement de parler des beaux côtés de mon métier, c'est-à-dire l'accompagnement des étudiants, en particulier des étudiants à la maîtrise ou au doctorat, là, qu'on connaît davantage, puis qu'on, oui. qu'on suit, puis qu'on accompagne dans leurs travaux, tout ça. Fait que ça me permettait de parler de ça. Là. Fait, hmm. Tu sais, c'est pas une critique du milieu littéraire. Vrai. Tout ça, c'est plus une nostalgie, déjà, pour lui qui est à la retraite, de... Il pose un regard sur ce que l'université lui a permis de faire, d'accomplir, tout ça, puis voilà.
Puis sur la... Ben, sur aussi, quand on devient professeur, sur... T'sais, on devient, on a un peu marqué une génération aussi de gens qui, on le voit, le rapport avec des étudiants, la relève, il se fait questionner aussi oui. sur son rapport à la littérature oui. d'aujourd'hui, des contacts avec des étudiants qui l'ont conservé aussi. Mm. Et cette question de voir des étudiants qui publient aussi, oui. J'imagine oui. c'est quelque chose qui est arrivé. Donc de voir ce rôle qu'on a pu avoir à un moment de leur vie.
C'est un peu, souvent je compare ça, pas de même niveau, là, mais... Le fait de choisir d'avoir des enfants, par exemple. Mm-hmm. C'est bon. Tu choisis d'avoir des enfants parce que tu dis, bon, la roue continue, tu sais, pis ça. Ben, la littérature, c'est un peu pareil. La roue continue. Mais d'autres, ça peut être dans le travail. Tu sais, tu formes des nouveaux collègues qui vont prendre ta place.
Tout à fait.
Fait que d'avoir l'impression que tu es un élément parmi d'autres là, qui font progresser des choses, pas nécessairement progresser dans le sens d'élever, mais tu sais, qui font avancer des choses. Puis toi, tu as profité de ceux qui étaient là avant toi.
Eh oui.
Puis. T'espères que ceux qui sont là après toi vont aussi profiter un peu de ce que tu vas leur avoir enseigné ou partagé, témoigné, pour eux-mêmes transmettre ça par la suite. Ouais. D'avoir l'impression de participer à quelque chose qui roule. Là, pis...
Tout à fait. D'ailleurs, dans novembre, avant la fin,
oui,
ça c'était un écrivain décédé, qui venait de décéder, qui hantait finalement les séances d'écriture de sa petite fille. Et là, on était plus dans le conseil, dans le... Ouais. Ce que ben, Antoine... Donc, non, exactement. Il y a beaucoup moins ça pour Antoine. Il y a dans ce livre, donc on évoquait la culpabilité. Et il y a, et ça, c'est, ça a l'air d'un commentaire vraiment un peu premier degré, mais il y a une intrigue réelle. Mm-hmm. Puis bon, il y en a dans tous les livres, évidemment, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu là une efficacité dans les clés de ce qu'on apprend, de ce qui est, tu sais, l'élément perturbateur, ouais. là, de premier qu'on apprend. Mm-hmm. Mais la construction, moi, j'apprends un peu là, en se parlant à quel point c'est né un peu par eux-mêmes, les personnages. Ouais. Mais je me dis en même temps, mon Dieu, ça a l'air... parce qu'il y a quand même un côté roman policier, presque,
oui,
dans les indices.
Ouais,
sur
policier, mais en tout cas, on veut savoir, hein. On veut savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé.
Est-ce que le secret un jour sera dévoilé?
Sera dévoilé. Puis même à la fin, on n'est pas. Il reste une question ou deux là, qu'on pourrait dire que c'est pas tout à fait réglé. En tout cas, mais oui, c'est dans ma manière de travailler, c'est comme dans la vie. T'sais, dans la vie, là, il se passe une chose. Puis il se passe une autre chose. Puis si c'est la première chose, c'était pas passé, la deuxième serait pas arrivée. Hein. Bon, mais l'écriture, pour moi, c'est pareil. Tu sais, à un moment donné, je suis en train d'écrire, puis là, le personnage vit quelque chose. Bien, ça va avoir une incidence sur ce qui va se passer 5 pages plus loin ou 10 pages plus loin, parce que ça a existé là au moment de l'écrire. Mais quand je l'écris, c'est parce que t'es redevable de ce qu'il y avait avant. Autrement dit, j'ai pas de plan. Tu sais. Et là, c'est vrai que l'intrigue, ben moi, j'avais pas les réponses non plus. Tu sais, je suivais mes personnages dans la recherche de... Puis il y a deux, trois retournements de situation. Ben je les ai vécus comme les personnages le vivent là, dans le récit. Ouais.
Est-ce qu'on pourrait les retrouver, Antoine et Marie? Est-ce qu'ils t'habitent encore
pour... Oui, oui.
Connaître leur sort, peut-être dans un autre...
Peut-être. Ouais, je sais pas, mais en même temps, c'est... quand, ils l'auront jamais réglé, ça. Hein?
De toute façon, ça nous laisse...
Moi, j'ai l'impression qu'ils sont voués à terminer leur vie dans une forme de tristesse parce que ça n'aurait jamais été réglé. C'est ça.
Dernière question sur le livre, parce que je veux aussi parler de la vie littéraire dans les beaux lieux. Mais la vie littéraire, elle est partout. Beaucoup de références littéraires, encore une fois. C'est des lecteurs, ces personnages-là. Toujours ce désir de transmettre aussi, encore là, dans une notion de ceux qui m'ont enseigné et qui restent. Il y a quasiment des prescriptions littéraires à travers ça. On lit la liste, on dit « ouais, c'est-tu une bonne liste? »
Il faut juste expliquer qu'au début de chaque chapitre, il y a une citation.
Exact.
Puis honnêtement, des fois, moi, j'ai vu ça, là, c'est pas un procédé nouveau, là, j'ai vu ça dans d'autres livres, puis parfois, ça m'apparaissait un peu plaqué. Alors, j'ai travaillé assez fort pour que la citation d'ouverture de chaque chapitre... Vraiment. Autrement dit, j'écrivais le chapitre, puis après ça, j'essayais de sortir l'idée principale de ce qu'il y avait eu dans ça, Puis là, j'essayais de trouver, soit dans mes lectures ou parfois, je vous cacherai pas qu'une fois ou deux, je suis allé dans des sites de citations là, avec
oui,
des
oui,
mémos.
Tout à fait,
ça. Mais pour trouver, dans le fond, une citation d'auteur qui correspond vraiment à ce qui s'en vient. Mais moi, je l'ai écrit avant, évidemment, pour savoir
exercice.
De quoi. Moi, c'est ça. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé ça, faire wow. ça.
Alors, de Baudelaire à un de mes préférés, Bret Easton Ellis, au Dalai Lama, de Marguerite Yourcenar, Jean-Paul Dubois, Michel Houellebecq. Donc, ils sont là, ils nous accompagnent dans cette lecture. Très, très bonne lecture, vraiment une psychologie de personnage et on ne peut pas faire autrement que s'identifier à partir d'un moment où un geste comme ça fait qu'on bascule, comment on réagirait, nous. Alain Beaulieu, je veux amener pour un petit deuxième volet par rapport à travail, donc une année chargée, l'enseignement, retour en présence des étudiants, qui a dû faire du bien, publication donc du Refuge et... nouvelle maison d'édition, en fait, nouvelle collection chez Druid, qui est l'éditeur du Refuge. Ouais. Ça va s'appeler Alinéa.
Alinéa, une collection. En fait, la collection littéraire de Druid depuis la fondation de la maison, c'était Écart, qui était dirigé par Normand de Bellefeuille.
Oui.
Normand a pris sa retraite là, l'an dernier, il y a un an et demi. Alors, Druid a songé... Tu sais, bon, il y a eu une période de flottement, puis ça, puis finalement, m'ont demandé si j'accepterais de diriger la nouvelle collection littéraire de Druid. Alors, j'ai dit oui, j'étais très heureux de ça. Et donc là, voyez-vous, les deux titres qui s'en viennent pour lancer la collection cet automne, je peux pas vous en parler tout de suite, mais ce sera septembre, octobre, ils sont déjà choisis. Puis ça, j'ai très hâte de présenter ça à tout le monde. Et je rencontrais hier, justement, une jeune autrice là, qui sera probablement le troisième titre, là, qui a écrit le troisième titre de la collection. Alors, c'est un nouveau défi pour moi.
L'idée de la relève, pas tous,
mais c'est justement, je veux faire de la place à une diversité d'auteurs, autant de genres, à la fois des auteurs qu'on connaît, mais aussi des auteurs moins connus, des premiers romans, comme la jeune autrice que j'ai rencontrée hier, ce sera son premier roman.
Okay.
Donc ça, je suis très content de ça aussi. C'est toujours excitant de tomber sur un manuscrit puis de se dire qu'on va participer au fait que ça devienne... quelqu'un qui va être publié, connu, tout ça. Donc, c'est un beau défi, du gros travail, parce que les éditeurs, comme vous le savez, reçoivent beaucoup de manuscrits.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Donc,
beaucoup
de lectures, c'est ça. Et en même temps...
Sélection, lecture, encadrement. Côté professeur, il y a de l'accompagnement.
Ben, oui, c'est ça. La différence, c'est que quand on est prof, moi, j'accompagne mes étudiants du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train d'écrire. Ouais. Alors que quand on est éditeur, on reçoit le manuscrit terminé, puis ça, puis là, ben, on décide si on y va ou pas. Fait que c'est ça la grosse différence. Mais sinon, après, effectivement, c'est de poser un regard critique. Puis dans le fond, ce qu'on cherche, c'est d'être emporté puis émerveillé par le manuscrit qu'on reçoit, puis se dire, hey, oui, ça, il faut absolument que les autres lisent ça.
Ça doit être assez exaltant, là, cette flair, là, autant que l'histoire de l'édition est faite de manuscrits qui ont passé sur le radar.
Exactement. Mais en même temps, je vis ça tous les jours. Hein, c'est-à-dire que moi, je reçois des manuscrits, je me dis, ah non, ça, c'est pas pour moi, tout ça. Mais peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre, tu sais, puis qui trouvera sa place ailleurs. C'est pas un jugement définitif sur l'œuvre de quelqu'un, mais en même temps, ben là, j'apprends tranquillement à dire non, ça aussi, à des personnes, à décevoir des gens. Ça vient avec un peu ce métier-là aussi.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Bien, en tout cas, c'est un très beau, très belle extension aussi du rôle de professeur.
C'est ça. Oui, tout à fait. Tout ça ensemble, là, j'ai l'impression que tout ça est lié. Ouais.
Formidable. Alors, Alain Beaulieu, au cœur de l'action, il n'est pas dans le bois, dans le refuge.
Non.
Il est vraiment proche. Et Alain Beaulieu, tu es au Salon du livre qui se termine à 17h aujourd'hui, donc dès 13h.
Je suis là, 13 à 14
live.
Et puis 15 à 16.
Ceux qui nous écoutent, évidemment, en direct et non pas en rediffusion mardi, parce que le salon sera terminé.
Ah, non.
Alors, on te laisse filer à la rencontre des lecteurs, des collègues auteurs aussi. Merci beaucoup, Alain Beaulieu.
Merci, c'est toujours un plaisir.
Toujours un plaisir. Ouais.
Je suis un peu de moi, des dîmes, noix, chou. Nous, me noix, chou, des ch'tis.
Voilà, on vient d'entendre un groupe de... Vous avez entendu New Wave, biélorusse, c'est bien ça, Brian Saint-Louis?
Oui, Molchat de Mac, on vient d'entendre. Ça fait deux fois que je fais jouer, puis ça fait deux fois que tu me dis « C'est-tu Joy Division? »
Ben oui, mais alors que c'est pas du tout en anglais, on s'entend, mais...
Oui, mais le son t'es pas fort, là, t'as plein d'excuses.
Voilà.
Oui, un groupe New Wave très intéressant quand même, récent aussi, et qui prend position pour... c'est des Biélorusses, ils prennent justement position beaucoup pour l'Ukraine aussi, donc on les salue. Beaucoup de courage que ça prend aussi, parce que c'est pas plus évident en Biélorussie que ce l'est en Russie de dénoncer ce qui se passe chez les voisins en ce moment. Voilà.
Absolument. Alors, voilà, merci. Et donc, Brian, on a annoncé, on rigolait un peu en début d'émission en disant qu'Olivier Niquet, donc chroniqueur, co-animateur de l'émission La soirée est encore jeune, qui publie beaucoup, de plus en plus, un gars maniaque de citations. Il aime comme ça repiquer, par exemple, les radios. Bon, ce qui se... Et il a développé, en fait... non pas personnage, parce que c'est dans sa nature, mais là, disons, peut-être démystifier que sont les introvertis, et c'est au cœur de son nouvel essai.
Ben c'est ça, Olivier Niquet, que vous connaissez probablement, même si vous n'écoutez pas La soirée est encore jeune. Je veux dire, ils prennent tellement de place dans l'espace médiatique, vous devez au moins les avoir vus. C'est le silencieux du trio, ce qui fait d'ailleurs qu'il y avait une chimie qui fonctionnait si bien dans cette émission-là, entre l'exubérance des autres, le calme d'Olivier Niquet. Ça faisait un peu une espèce de chimie qui est levée, ça expliquait un peu...
Avec tout l'élément peut-être de Turc, en tout cas, ils ont serait dans le... Ils stéréotypent un peu leur personnalité, donc ils cadrent
ça,
bien dans ce rôle.
Donc,
un peu plate, jamais dans les excès. Hein, on joue un peu là-dessus.
Ben, c'est ça, entre Jean-Sébastien Girard, justement, qui était qui l'est toujours, là, le plus un peu extraverti, qui tripe sur les vedettes. Jean-Philippe Vautier aussi, très. Donc, groupe des A, là, très connu, artiste. Niquet, lui, on a toujours beaucoup plus axé sur son silence, son manque de répartie et les malaises qu'il cause lorsqu'on prend l'ascenseur avec lui. Donc oui, il est un peu devenu comme étant justement ce personnage qui est introverti, qui parle peu. Ça paraît aussi d'ailleurs à l'émission, les deux autres parlent tout le temps et lui, quand il ne parle que lorsque c'est son bloc, c'est assez rare qu'on entend avoir des répliques spontanées. Il nous explique pourquoi dans ce qui est déjà son quatrième livre, comme tu l'as dit beaucoup avant, spécialiste des citations, donc il y a eu Dans mon livre à moi, il y a eu Le club des mal cités. Il y a eu deux tomes, d'ailleurs, de Dans mon livre à moi. Et là, il publie un premier essai, Les rois du silence, ce qu'on peut apprendre des introvertis pour peut-être être un peu moins débile, et peut-être sauver le monde. C'est chez les éditions de ta mère, dont je vous parlais aussi la semaine passée avec le très touchant ouvrage de Caroline Fouché. Si vous êtes au Salon du Livre, allez voir, d'ailleurs, le stand des éditions de ta mère qui sont là. Puis il y a plein de livres intéressants dans cette maison d'édition-là qui est très dynamique et très intéressante à surveiller, publié entre autres Jean-Philippe Barry-Guerrard aussi, donc vous les connaissez peut-être. Donc, Olivier Niquet, oui, qu'on connaît, puis on l'a vu aussi dans Le Spornographe, on l'a vu chez Julie Snyder à nouveau, donc vous l'avez probablement déjà vu, c'est ce grand Silver Fox qui ne dit pas grand-chose. Il en parle beaucoup dans ce livre-là, mais là, oui, on est plus dans l'essai ici, et c'est pas vraiment un livre d'humour ou d'humeur, on pensait peut-être que ça allait être plus, justement...
Oui, parce que le sous-titre est quand même très comique.
Oui, oui. Puis on aurait pu penser, justement, étant donné que La soirée est encore jeune, c'est une émission qui tourne beaucoup autour de leur inside, de patterns de jokes qui se répètent toujours. On pensait qu'on allait tous les retrouver, ces jokes-là, d'Olivier Niquet, qui est l'introverti du groupe. Pas nécessairement, justement, on part de cette prémisse que tout le monde le sait, qu'il l'est. Donc, on tourne pas vraiment autour de ce pot-là. Il y a deux anecdotes, par contre, qui n'ont pas le choix de revenir. Celle de l'ascenseur, justement, où on dit que c'est malaisant de prendre l'ascenseur avec Olivier Niquet parce qu'il ne dit rien. Et aussi, quand on lui demande comment ça va, il répond « Bien, toi! » parce que c'est ça, on met beaucoup en question le fait, justement, que les introvertis n'agissent pas en société comme les extravertis, qu'on entend beaucoup plus. Et là, on vient justement, on tente de définir c'est quoi un introverti. Qu'est-ce que c'est pour toi, Valérie, un introverti?
Ben, moi, je pense que c'est quelqu'un qui sent probablement... cette observation sur le monde, aurait envie peut-être d'intervenir, mais ne sent pas le besoin d'exprimer aux autres ce qu'il ressent.
Bon, voilà, t'es quand même un peu plus proche de sa définition, ouais, à okay. lui, justement. Mais introverti...
Parce que je pense pas qu'il en souffre, l'introverti. C'est là la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il dit « Oh, que j'aimerais ça m'exprimer davantage, puis je suis pas capable » ou c'est tout simplement « Non, c'est pas dans ma nature, je préfère
m'acheter. » Ah, mais tu vois, t'es pas mal dans ses os à lui.
Ah, et je ne l'ai pas lu, alors.
Parce qu'on passe beaucoup de temps, justement, à se questionner sur c'est quoi un introverti. Est-ce que c'est un être qui est gêné? Est-ce que c'est quelqu'un qui est timide?
Ouais, c'est peut-être
prend pas sa place? Es-tu qui est pas intelligent puis qui a rien à dire? Ou au contraire, justement, c'est qu'il y a des choses à dire, mais il ne ressent pas nécessairement le besoin. Est-ce que c'est quelqu'un qui est nécessairement solitaire, qui veut passer du temps seul dans son sous-sol, comme ces fabuleux les Ikikomori, là, dont on a déjà parlé ici à l'émission, le roman de José Marcotte, si je ne me trompe pas. Là.
Oui.
C'est amateurs de jeux vidéo japonais qui peuvent passer une semaine
tout
complète
à
jouer à des
oui,
jeux
oui,
vraiment
oui,
solitaires.
Oui.
Non, pas nécessairement. Un introverti, ça peut apprécier la compagnie des autres. Ça peut être un être très sociable. Mais dans un souper, c'est que ça va laisser les extravertis, justement, parler plus. Et eux, ça va écouter en silence, en hochant la tête. Et ça va être très heureux de ça. Ce qu'Olivier Niquet fait beaucoup ressortir, justement, c'est qu'il y a, il y a des explications neurologiques au fait d'être extraverti. Le sang circule, entre autres, le sang circule pas de la même façon dans le cerveau que chez les extravertis. Donc, il y a des chemins que prend le sang dans le cerveau pour que l'introverti, le temps qu'il réfléchisse à ce qu'il va dire, qu'il le formule, c'est plus long et c'est mesurable par le cerveau. Donc, qu'un extraverti qui lui parle, et puis là, on va jusqu'à l'extrême, extraverti, donc une personne qui va animer dans une radio de Québec, par exemple, qui va faire cheminer sa pensée en la disant.
Oui,
alors
tout à
que
fait.
L'introverti lui doit réfléchir un peu plus à comment sa pensée se structure avant de parler. Et là, ben, de ces prémices-là, on arrive ensuite à réfléchir. Ben là, c'est ça, on va parler entre autres de dopamine, de choses très plus scientifiques. Mais on va parler justement ensuite
de... Il a cette posture de dire « je suis comme ça et je... » Il a fait un peu de recherche, en fait.
Oui,
ça.
Quand même, un petit peu. C'est pas un ouvrage scientifique, là, mais il y a quand même quelques petites recherches. Mais on réfléchit aussi beaucoup, justement, sur la société qui valorise beaucoup l'extraversion. Donc, on est dans une époque où il faut savoir être spontané, parler de soi, le marketing de soi, les réseaux sociaux. Tu disais en introduction de l'émission, la pandémie a peut-être aidé les introvertis parce que, justement, on était tous à distance, on avait le temps de réfléchir un peu plus. Oui, Internet a beaucoup aidé parce que justement, un introverti sur Internet, qu'il ait pris le 2 minutes de plus dont il a besoin pour formuler sa réponse au lieu de la sortir spontanément en personne, oui, ça a aidé les introvertis justement à parler un peu plus, mais il reste que dans la société en général, on valorise encore beaucoup l'extraversion. On parle du monde de l'emploi, par exemple. Quand on est en entrevue, si l'introverti a l'air plus timide, parle pas beaucoup, est-ce qu'on va lui faire confiance? On va être plus attiré vers une personne qui a l'air confiante, qui parle beaucoup, qui en jette. Donc, ça fait des différences. Puis on voit que même, il fait des réflexions aussi sur le milieu de l'éducation, par exemple, des professeurs qui vont valoriser beaucoup, donc des élèves qui vont spontanément lever la main, parler, dire n'importe quoi, va voler l'attention, alors que l'introverti, lui, aurait besoin de quelques secondes de plus pour réfléchir, structurer sa réponse, bien dire la bonne chose au bon moment. C'est pas qu'ils sont pas intelligents, mais justement, cette espèce de climat de société-là fait que au final,
de plus en plus, à plusieurs égards, parce qu'on valorise la présence de soi dans l'espace public. Là.
Ben, c'est ça.
Ouais.
Faut pas non plus, par contre, dire que les introvertis sont parfaits. Moi, en lisant ce livre-là, j'ai eu l'impression beaucoup... je voyais dans ma tête tout le temps les graphiques avec des ronds de zones qui s'entrecoupent. Donc, un introverti peut aussi être une personne pas intelligente, peut aussi être une personne qui, même s'il a pris le temps de réfléchir un peu plus, dit des choses qui débordent complètement de sa pensée, qu'il n'aurait pas dû dire. Donc, on est un peu dans cette idée-là que les introvertis ont d'autres qualités. Il faut qu'on prenne le temps de les considérer, de voir que cette pensée-là peut sortir de telle ou telle façon. Mais oui, il y a aussi des êtres moins recommandables chez les introvertis. Mais donc, c'est plein de concepts qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Mais quand on revient au sous-titre du livre, là, ce qu'on peut apprendre des introvertis pour être un peu moins débile, et peut-être sauver le monde. Reste qu'on aurait tous avantage, pour vrai, à prendre parfois quelques secondes de plus pour réfléchir avant de parler. Tout ce que, puis aussi, tout ce qu'on dit n'est pas toujours pertinent. Ça, dans les réseaux sociaux, on l'oublie souvent. Hein, quand on prend le temps de commenter la moindre publication qu'on voit, reste que 99,5% des commentaires sous des publications sur Internet, ce n'est pas ni pertinent ni intéressant pour le reste de la planète. Vous auriez très bien pu vous retenir et ça va juste créer des tensions et tout. Donc oui, prendre le temps de réfléchir et considérer que tout ce qu'on dit n'est pas pertinent. Puis c'est ça, on va avoir des réflexions dans le livre là, sur des réunions, par exemple, où je vais attendre que quelqu'un d'autre le dise. Ah, quelqu'un d'autre va le dire à ma place, ou ah, finalement, je ne l'ai pas dit. Bon, donc. Ouais.
Mais est-ce qu'on sent ce désir d'être autrement? Est-ce que c'est associé au regret, tu sais, à l'idée de.
Oui, il a l'air tout à fait à l'aise.
Il est bien, il assume son introverti.
Oui, puis.
Son caractère introverti, en fait.
Ça. Oui, puis pourtant, c'est ça, il y a des sondages dans le livre où on dit ben, qu'il y a des gens, des introvertis qui ont l'impression qu'ils seraient peut-être justement plus heureux d'être extrovertis. Mm-hmm. Là, c'est peut-être la sagesse qui parle dans le livre en disant. Ben maintenant que je suis plus vieux, je vois les avantages de ma condition. Lui, il faut dire quand même qu'il s'en sort bien. C'est ça, il est devenu le porte-silence, comme on disait, des introvertis. Et il le dit, ben je me suis retrouvé à travailler avec des gens qui étaient très extrovertis. J'ai pu me mettre en valeur, j'ai une belle carrière maintenant. Je fais quelque chose que j'aurais jamais pensé que je ferais. Lui, il s'en sort très bien. Il y a peut-être d'autres introvertis pour qui c'est plus dur. Ouais. Mais si, comme société, on prenait plus le temps de considérer ces personnes-là et de voir que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Il y a un petit passage d'ailleurs très drôle sur le monologue intérieur où on dit tant de pourcents des gens ont toujours un monologue intérieur, tant de pourcents ne l'ont pas. Chez certaines personnes, c'est juste des concepts qui passent.
OK, et intéressant.
Et puis là, ben, tout le monde est toujours surpris. Ah, toi, c'est pas comme ça. Donc, de voir que chaque personne est différente. Et qu'il ne faut pas juger trop vite, justement.
Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on peut devenir extraverti? Est-ce que, par exemple, tu parles de Vinquette que tu dis que ça a très bien servi, puis effectivement, cet équilibre-là, ce contre-emploi, un peu qu'on pouvait imaginer dans une émission aussi pétillante que La soirée est encore jeune, on se dit, là ça se termine. Que deviendra-t-il? Sera-t-il vers l'écriture? Serait-il... tu sais, est-ce que cette expérience-là peut faire que quelqu'un est moins introverti?
Je ne sais pas si on peut... Ben justement,
je sais pas si on change profondément.
Ben, si on parlait au début là, du bout neurologique, ouais. On disait cerveau circule. Est-ce qu'on peut modifier la structure de son... Je ne sais pas. On peut tenter de changer un peu, tenter d'être moins malheureux peut-être. Mais voilà, donc c'est un petit trouvage quand même qui ne se prend pas trop au sérieux, même si on parle quand même de contenu. Il le dit lui-même. Il dit, ben, je suis allé faire des recherches. Mais comme n'importe qui fait ses recherches lui-même aujourd'hui, maintenant, on peut toujours trouver quelque chose qui corrobore qu'est-ce qu'on dit ou qui
est
allé du côté des gens qui disent un peu dans son sens. C'est un témoignage d'un introverti pour qui ça se passe quand même bien. Puis on se questionne à la lecture de ce livre-là, finalement. Est-ce que moi, je suis introverti ou non? Est-ce que je me comporte comme ça ou pas? Puis là, on voit que c'est justement pas nécessairement une case qu'on coche, je suis extraverti ou introverti. Tout est en zone de gris et en diagramme de cercle qui s'entrecoupe, voilà. Donc, intéressant, ça va plaire beaucoup, ben peut-être... aux fans, justement, de l'émission qui aiment beaucoup Olivier Niquet, mais c'est ça, un petit livre sympathique quand même, petit essai. Là. Ça s'appelle « Les rois du silence », c'est publié, je vous rappelle, chez les éditions de ta mère.
Merci beaucoup, Brian. On va filer tranquillement vers le dernier droit d'émission tout de suite après cette pièce.
Qui s'impose, évidemment, « Enjoy the silence », mes reprises de Coralie Clément.
Here in my arms, well,
Pour terminer cette émission d'épilogue avec quelques petites actualités. Bien évidemment, il y a le Salon du livre de Québec qui se poursuit jusqu'à 17h. On a bien hâte de voir le bilan de ce salon de retour, presque dans une formule normale après 2 ans de perturbations. Beaucoup de monde. En même temps, la COVID qui a plané un peu. Espérons, là, donc on verra le bilan qui sera fait. Notre invité Alain Beaulieu, il est là de 13h à 14h si vous nous écoutez en direct dimanche 10 avril. Aussi, tu dis Olivier Niquet est présent. Donc, évidemment, la grande fête du livre qui se poursuit aujourd'hui. Et petite actualité, on apprenait mercredi, je crois, les éditions Québec-Amérique qui ont annoncé le décès de l'autrice à succès Micheline Lachance. Mm-hmm. Donc, dépêche de la revue Les Libraires qui nous dit qu'elle laisse derrière elle des milliers de fervents lecteurs ainsi qu'une vingtaine de livres mêlant avec adresse fiction et faits historiques. Feuille de route remplie de plusieurs prix littéraires aussi. Journaliste à l'actualité des articles. Elle était aussi rédactrice en chef du magazine Châtelaine de 89 à 94. Biographe, elle s'est intéressée à des personnages comme le cardinal Léger et le frère André. Elle est aussi à la fois historienne, donc écrivaine. Elle a tiré des entrailles de notre histoire commune des héroïnes féminines comme Julie Bruno Papineau, Lady Cartier. Vraiment, cette femme a toujours
mis. Une auteure très connue qui n'avait pas toute l'exposition médiatique, mm-hmm, qui allait pourtant avec le nombre de lecteurs, ouais, qu'elle a. Cette catégorie-là, Louise Tremblay-Desciambles aussi, ce genre d'auteur-là.
Absolument. Le roman de Julie Papineau, ouais, un succès, oui, incroyable. Oui. Mais c'est exactement souvent le cas que tu nommes, tu fais bien des nommer, c'est des gens qui ont ont une vie peut-être loin de la, de parfois des tribunes littéraires et qui ont pourtant un succès. Et le roman historique est très implanté. Et elle a d'ailleurs mis de l'avant les femmes dans ses romans. Pour elle, c'était un geste politique et féministe. Les femmes dans notre histoire ont été très influentes, mais ce fait est largement méconnu. Alors voilà, condoléances à tous les proches de Micheline Lachance. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette émission d'épilogue. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, dimanche de Pâques, nous serons en relâche. Pour ma part, je serai absente 2 semaines, donc on se retrouve le 1er mai. Ça nous amène dans mai, Brian, mon Dieu! Le printemps file! Alors, merci à Alain Beaulieu. Je rappelle le livre Le Refuge, publié aux éditions Druide. Merci à Brian Saint-Louis, comme toujours, le grand Manitou. Mise en onde, choix musical et critique, donc, de du livre d'Olivier Niquet.
Oui, voilà.
Les voix...
Les rois du silence,
voyons. Voilà. Ça va rentrer. Alors voilà, merci à tous, une bonne semaine, bonne lecture et on se revoit dans 2 semaines.
Dans 2 semaines pour toi, oui.
Voilà, merci.
Le magazine littéraire Épilogue vous était présenté par la Librairie du Quartier. La Librairie du Quartier, au 1120 Avenue Cartier, au cœur de Québec.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Mais oui, je suis disponible pour travailler. Pourquoi vous me coupez?
L'assurance-emploi te ferme la porte au nez? Action Chômage de Québec défend tes droits. Visite le actionchômage.org ou abonne-toi à notre page Facebook, facebook.com/Action Chômage.
Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec.
On se prépare. On s'accorde. On est prêt. Ça va commencer. Maestro, la musique de concert, c'est en salle que ça se vit. De concert avec vous, ensemble, en salle. Trouvez votre concert sur deconcertsavecvous.com. Un message du Conseil québécois de la musique en partenariat avec le gouvernement du Québec.
L'Anglicane vous offre des spectacles inoubliables dans le Vieux-Lévis, à quelques pas du traversier. Ces prochaines semaines, laissez-vous charmer par les voix de Diane Tell, Lou-Adrienne Cassidy, Salomé Leclerc, Linda Lemay et Mélissa Bédard.
Que le jour n'était pas la nuit.
Ou laissez-vous surprendre par la pièce Conversation avec mon pénis et le talent de la danseuse de flamenco Karine Parisé. Découvrez la programmation complète de l'Anglicane au langlicane.com.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui.
Cessez de vous taper la tête sur les murs. Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
Vous voulez entendre des témoignages inspirants de personnes qui se sont sorties de l'enfer de l'alcoolisme grâce à une méthode en 12 étapes. Écoutez l'émission Un jour à la fois, les lundis à midi sur les ondes de CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Que faites-vous les dimanches soirs? Faites comme beaucoup de gens qui nous suivent depuis 25 ans et écoutez Profil dès 20h. Découvrez toutes les nouveautés progressives en provenance d'ici et de partout dans le monde. Profil, la référence progressive à Québec. Le dimanche, 20h, à l'antenne de CKIA FM 88.3 Radio Urbaine.
Hasbassar.